Badania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En Espagne, de Madrid à Barcelone, les bureaux de vote vont fermer dans moins d'une heure, car à un mois des élections européennes, les Espagnols ont été appelés aux urnes pour désigner leurs 350 députés dans le cadre d'une élection anticipée. Depuis 1975 et la mort du dictateur Franco, la droite et la gauche ont alterné sans problème à la tête du pays. Mais depuis quelques années, avec la crise économique de 2008 et le chômage de masse, l'afflux de migrants et surtout les velléités indépendantistes catalanes, le paysage politique s'est fracturé en Espagne. Au traditionnel PP, le Parti Populaire de droite, le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, s'est greffé au fil des années Podemos, un parti de gauche radicale, Ciudadanos, historiquement de centre-droit, mais c'est surtout le petit dernier, Vox, ouvertement d'une extrême droite nostalgique de Franco, qui aujourd'hui perturbe le jeu. Certes, Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste sortant, caracole en tête dans les sondages, mais il n'est pas sûr pour autant qu'il puisse former un gouvernement au lendemain de ces élections, et l'Espagne risque d'entrer dans une zone de turbulence. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Silvia Ayuso.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à Paris du très grand quotidien El País. Bonjour Russo Zambrana. Vous êtes le directeur du Collège d'Espagne, qui est le collège qui accueille les étudiants espagnols qui viennent faire leurs études en France, c'est ça?
Voilà, il est à la cité universitaire, c'est un collège historique, et beaucoup de gens importants, de Buñuel à Tapies, y sont passés, et il y a beaucoup d'étudiants qui continuent à passer, des chercheurs, des jeunes chercheurs.
Benoît Polistroli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire. Votre dernier livre, Le labyrinthe catalan, vient de sortir chez Desclés de Brouwers. Merci d'être en ligne de Madrid. Alors, on a le français est en Espagne et les Espagnols sont autour de moi dans le studio 42 de RFI. On a un peu changé la donne. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, les Espagnols votent dans le cadre d'une élection anticipée. Pour comprendre un peu mieux la situation dans laquelle se trouve l'Espagne, il faut peut-être revenir quelques mois en arrière et plus précisément le 1er juin 2018, où le socialiste Pedro Sanchez arrive au pouvoir en chassant le conservateur Mariano Rajoy à la suite d'une improbable motion de censure, Benoît Pellistrandi.
Oui, c'est la première fois dans la démocratie espagnole qu'une motion de censure a réussi. La constitution espagnole a fait de la motion de censure quelque chose de constructif. Il ne suffit pas de renverser le gouvernement, il faut en réalité élire un nouveau chef de gouvernement. Et que s'est-il passé à la fin du mois de mai 2018? Le Parti Populaire a été condamné en tant qu'organisation pour des faits de corruption, et Pedro Sanchez a eu l'intuition que c'était le moment de déposer une motion de censure autour justement de la condamnation de la corruption, et il a réussi à regrouper autour de lui une majorité complexe, parce que ça allait des socialistes, mais qui était un groupe parlementaire avec 84 députés sur 350, donc c'était quand même pas une force considérable, et il est allé jusqu'aux nationalistes, aux élus nationalistes, tant les Basques, qui venaient la semaine précédente de voter le budget de Mariano Rajoy, que les indépendantistes catalans. Et bien sûr, avec le soutien du groupe Podemos, 71 députés qui représentent le deuxième pied de cette gauche. Du coup, Pedro Sanchez s'est trouvé chef du gouvernement. C'est un moment traumatisant pour le Parti Populaire qui ne s'attendait pas à ce succès. Pedro Sanchez était un peu une sorte de ressuscité de la vie politique. Il avait été défenestré par les cadres du Parti Socialiste en 2016. Il était revenu à la tête du Parti Socialiste grâce aux primaires. Et tout ça explique l'état d'extrême tension dans lequel est en train de se dérouler la campagne électorale et dans lequel Pedro Sanchez vient de gouverner pendant 8 mois, parce que la droite l'a accusé d'être illégitime, une accusation qui est tout à fait inacceptable parce que le processus est parfaitement constitutionnel, mais qui sert en réalité à essayer de mobiliser la droite. Quant à la gauche, elle est aussi elle-même en pleine recomposition, et Pedro Sanchez a réussi, en prenant le pouvoir, à redonner au Parti Socialiste cette position centrale à l'intérieur des gauches. Alors, le scrutin de ce soir va être déterminant, parce qu'on va voir finalement quelles sont les conséquences, pas simplement de cette arrivée au pouvoir de Pedro Sanchez, je dirais un peu surprenante, mais aussi d'une législature qui a été marquée par la crise catalane et qui a donc été très tendue.
Alors, Rousseau Romana, Pedro Sanchez, pour revenir un peu sur lui, il revient de loin. En 2016, le PSOE avait réalisé l'un de ses plus mauvais scores, voire le plus mauvais de son histoire. Il avait un peu l'image d'un jeune flambeur de la politique sans une grande consistance, et il s'est révélé.
Oui, il s'est révélé qu'il a toutes les opportunités, il les joue bien. D'abord, il a joué les primarias très bien, il a gagné les premières primarias, il est devenu secrétaire général. Ensuite, il a eu des difficultés avec les cadres du parti, et d'ailleurs, étant donné les topages qu'il y avait dans la vie politique, il a été renvoyé par un comité fédéral, il s'est présenté une autre fois, il a gagné les primaires, et ensuite, il a trouvé le moment opportun. Évidemment, la situation en Espagne après la condamnation du Parti Populaire était grave, il a joué la motion de censure, comme M. Pellistan vient de dire, c'est la première fois que ça a réussi, donc il est devenu président du gouvernement. Et maintenant, une fois que les partis catalans n'ont pas voulu voter les budgets, il a encouragé que c'était le moment de convoquer les élections qu'on a aujourd'hui.
Sylvia Ayuso, tout de suite, Pedro Sanchez s'est imposé sur un sujet délicat, les migrants, en autorisant le 8 juin dernier, le navire Aquarius, qui était rempli de migrants à son bord et qui errait sur la mer Méditerranée, a accosté dans un port espagnol, c'était Valence. Ça lui a donné, pratiquement en une fraction de seconde, un jour, l'occasion de poser la question migratoire au niveau européen. Ça lui a donné aussi quasi instantanément une stature d'homme d'État, de premier ministre de gauche, et ça lui a donné une dimension européenne.
Oui, il a bien joué le peu de cartes qu'il avait, parce qu'avec, comme on disait, avec 84 députés, c'est très difficile
sur
à gouverner.
Sur 350, c'est pas grand-chose.
Voilà, exactement. Il savait ça, mais il a fait des très bons coups d'image. C'était pas seulement avec l'immigration, même avec son gouvernement. C'est le gouvernement, c'est même pas seulement paritaire, c'est le gouvernement du monde qui a plus de femmes dans le gouvernement. Il avait plein de messages qui disaient au début, bon, peut-être que je peux pas trop gouverner, mais je vous montre qu'est-ce qu'on pourrait faire si j'ai vraiment... Il a gouverné, mais je veux dire, si les choses passent bien, si c'est difficile, comme finalement c'était une situation un peu insoutenable, il a donné beaucoup de messages aussi pour Europe. Il est venu la première fois à voir le président Macron. Paris, c'était je pense que c'était son premier voyage à l'étranger. Oui. Il a organisé avec Macron des autres pays plutôt ouverts en question d'immigration, la question d'Aquarius. Après, ça change un petit peu, mais il a montré une volonté aussi absolument pro-Europe, même si maintenant, malgré tout, dans cette campagne, l'Europe était plutôt absent de débats, de discours. C'était plutôt centré en Espagne, mais il a montré certains voies de qu'est-ce qu'il pourrait ou voudrait faire, même s'il n'avait pas tous les pouvoirs pour faire qu'est-ce qu'il voulait faire.
Il a notamment augmenté le salaire minimum de 22%, oui. Augmenté les retraites. Il vous l'avait dit, il a un gouvernement très féminin, il y a plus de ministres femmes que de ministres hommes. Et enfin, il a marqué et les esprits, et il a en quelque sorte changé un peu l'image de l'Espagne qui était un peu figée avec Mariano Rajoy, qui était un peu étriqué, un peu assis sur ses certitudes. C'est un peu ça.
Oui, il a donné... il y a quelqu'un, les critiques ont dit un coup de communication, mais je pense que c'était plutôt effectif, montré avec des ministres. Il a pris des ministres, des gens très capables dans leur droit. Voilà, c'était surtout, je pense, une volonté de montrer. Il a fait des choses. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait des choses. Je veux dire qu'avec cette minorité, c'était très difficile, oui. Dans un contexte comme c'était l'Espagne, avec tout le conflit avec la Catalogne, tout les divisions, les tensions qui ont suivent jusque maintenant et qui vont se réfléchir dans cette élection. Et il a fait des choses que c'était intéressant quand même.
Pedro Sanchez, il a surtout repris le dialogue avec les indépendantistes catalans après la tentative de sécession suite au référendum illégal du 1er octobre 2017, avec l'idée d'un, je le cite, hein, d'un projet de pays inclusif, mais toutefois sans céder au chantage des indépendantistes au pouvoir à Barcelone. Alors ce projet de pays inclusif, c'est l'idée de redonner un peu plus d'autonomie encore aux Catalans qui en ont beaucoup, puis peut-être un peu plus de financement de Madrid vers Barcelone. Alors vous avez sorti le labyrinthe catalan. Évidemment, la Catalogne reste centrale dans la campagne électorale qui se joue en ce moment, qui s'est terminée bien sûr, et puis dans la problématique espagnole.
Oui, elle est centrale et elle explique l'état de tension de la société espagnole et des institutions. Et elle explique du coup que la campagne est particulièrement violente. On a, la droite a reproché à Pedro Sánchez d'avoir cédé devant les indépendantistes. C'est une accusation sans fondement, car en réalité, comme vous l'avez dit, et on vient de l'esquisser, Pedro Sánchez a en réalité tout simplement refait de la politique, là où Mariano Rajoy n'en faisait plus et se contentait un petit peu de gérer les affaires courantes et de s'occuper uniquement du redressement économique et macroéconomique de l'Espagne. Donc Pedro Sánchez a voulu faire de la politique. Il a montré qu'il n'y aurait de solution en Catalogne que par le dialogue. La difficulté dans laquelle il est, c'est que ses interlocuteurs indépendantistes ne sont pas fiables. Et on l'a vu, c'est la raison pour laquelle il y a cette élection anticipée, Justo Zambrana l'a rappelé, les députés indépendantistes au Parlement national à Madrid ont refusé de voter le budget. Un budget qui prévoyait énormément d'investissements en Catalogne, donc qui était objectivement un bon budget pour la Catalogne. Mais en réalité, les indépendantistes ne veulent pas de cette solution-là. Les indépendantistes, ils veulent continuer à alimenter ce rapport de force, cette crise entre Barcelone et Madrid. Mais je dirais, par-delà les propositions très timides en réalité que fait Pedro Sánchez, parce qu'il sait bien que l'espace politique n'est pas encore ouvert, alors peut-être effectivement que le résultat de ce soir permettra d'y voir un petit peu plus clair, mais en réalité, ce que Pedro Sánchez sait, et ce que d'autres partis savent mais ne veulent pas prendre en compte, c'est que le vrai problème aujourd'hui en Catalogne n'est pas la question de l'indépendance. Les indépendantistes ont échoué, ils le savent, ils ne veulent pas le reconnaître. Mais la vraie question politique, c'est comment reconstruit-on une société catalane apaisée alors qu'elle est profondément déchirée, et comment reconstruit-on les conditions d'un débat et d'un dialogue politique. Et là où je dois dire, je suis pour ma part très inquiet, c'est qu'en fonction des résultats de ce soir, ce sera possible ou ce ne sera pas possible. Si une majorité de droite apparaît, avec notamment un groupe parlementaire important pour Vox, on sera dans une confrontation qui servira objectivement les intérêts indépendantistes, qui crispera tout, alors que l'urgence en Espagne, c'est de vraiment reconstruire les conditions d'un débat démocratique en Catalogne.
Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation paradoxale, car les derniers sondages, on aura bien sûr dans une heure ou deux le résultat, mais les sondages accordent environ 30% des suffrages au Parti Socialiste espagnol. C'est évidemment beaucoup, mais c'est pas forcément suffisant pour former un gouvernement, car l'allié objectif et du Parti Socialiste espagnol, Podemos, la gauche radicale, elle, en chute climat. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale.
Oui, et sans doute, il y a, en ce moment, il y a plus de voix à droite qu'à gauche. Si bien que pour la première fois dans le système espagnol, c'est proportionnel, mais c'est corrigé, surtout par les circonscriptions, que dans la Constitution, c'est la province. Donc, normalement, il y a une prime pour les premiers partis et pour les secondes partis qui ont plus de députés que de voix. Chose qui est un avantage et qui explique en partie la situation en Catalogne pour les partis catalans et basques, qui ont normalement plus de représentants que de voix, parce que c'est le même effet, se concentre dans quelques départements. Et alors, ça va poser un problème. C'est pas, enfin, peut-être que les partis socialistes, plus Podemos, plus les partis nationalistes basques et les compromis, les îles Canaries que peut apporter un ou deux, entre tout, arrivent à une majorité. Et normalement, les partis nationalistes basques, quand il y a des opérations d'État comme ça, ils rentrent pour appuyer l'estabilité de l'État. Mais c'est pas sûr. Tandis que si les trois droites arrivent à avoir une majorité en siège, bon, ça serait une autre situation, comme M. Pellistrand vient de le dire. Mais les derniers sondages indiquent qu'ils ne vont pas arriver à avoir la majorité en siège, surtout que la division de la droite en trois partis presque pareils en ce moment, puisque Vox, enfin, pour l'instant, il est plus bas dans les sondages, mais ça peut monter, un peu d'effet surprise il peut y avoir, ça peut donner, ça donne des résultats dans beaucoup de l'Espagne antérieure, les circonscriptions petites qui ont moins de 6 de députés, qui sont quand même 35 sur 50, dans toutes ces circonscriptions, la division de la droite va lui coûter beaucoup en termes de sièges.
Sylvia Ayuso, l'Espagne a changé parce qu'il y a 5 ans, le parti dont on parlait, c'était Podemos. Aujourd'hui, ils sont en dehors de la course. Et le parti dont on parle tout le temps aujourd'hui, celui qui fait la une des élections, en tout cas, que l'on découvre, c'est le parti qui s'appelle Vox, qui est un parti d'extrême droite. Comment vous le définiriez ?
D'extrême droite, sans doute, c'est un parti, c'est quand on parlait juste avant de qu'est-ce qu'il passe avec la Catalogne, qu'il faut décider de maintenant en futur, ça, bon, le dialogue c'est la seule voie possible, je veux dire, pour régler quelque chose, mais le conflit de Catalogne, ça n'a pas eu seulement de conséquences en Catalogne, et ça va pas avoir seulement des conséquences en Catalogne, ça a eu déjà en toute Espagne, parce que le phénomène Vox n'explique pas sans les conflits catalans. C'est là, pour moi, que je suis un peu observatrice extérieure, parce qu'il a plus de 12 ans que je n'habite pas plus en Espagne, il a seulement 2 ans que je suis retournée en Europe. Alors, j'ai vu mon pays d'un peu de loin, et j'étais surprise, surtout maintenant que je suis de Madrid, quand je vais à Madrid, toujours jusqu'à aujourd'hui, les noms des drapeaux, des symboles d'Espagnols qu'il a partout dans les villes, même dans des quartiers plus populaires, même dans des quartiers multiculturels, comme ça se relève à pièce. Et ça m'étonne, parce que c'était un tabou avant. Ça veut dire que les discours, d'une certaine façon, à partir du conflit catalan, il a eu aussi une normalisation d'un discours assez à droite qui a ouvert ça et qui a laissé certains tabous sortir. Et ça s'est explosé. C'est intéressant aussi le fait qu'il a Vox, mais aussi pour la première fois jusqu'à maintenant, les divisions, c'était surtout à gauche. Il avait toujours les indécis, la division, la difficulté de voter. À qui voter, c'était pour les citoyens qui voulaient voter à gauche. À droite, il avait les partis populaires. Maintenant, il a 3 options. C'est pour ça aussi que tous ces derniers jours de campagne électorale, c'était surtout une bataille entre la droite. Et ça, c'est intéressant, mais c'est aussi, ça préoccupe la normalisation de Vox, ça rentre dans ces contextes-là, je pense.
Benoît Pénistroni, est-ce qu'on peut dire que si on prend une pièce d'un euro espagnol, il y a d'un côté les côté pile, les indépendantistes catalans, puis côté face, Vox, car Vox n'aurait peut-être pas existé, ou on n'aurait pas fait cette irruption si rapide sans des indépendantistes catalans.
Oui, c'est évident. On l'a vu avec les élections en Andalousie, décembre 2018, 400 000 voix, en 2015, 15 000. Donc, c'est multiplié par 60. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que Vox, c'est un nationalisme espagnol identitaire qui se manifeste. Vox est né d'une scission du Parti Populaire. Ce sont des militants du Parti Populaire, essentiellement des militants d'ailleurs du Pays Basque. Le leader Santiago Abascal a été un élu local du Parti Populaire au Pays Basque. Il y a autour d'eux des personnalités qui sont d'anciennes victimes de l'ETA. Je pense à José Antonio Ortega Lara, qui était un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire et qui avait été enlevé par l'ETA et qui avait été séquestré pendant 532 jours. Et ce sont des gens qui se sont soulevés contre l'impéritie de Mariano Rajoy sur la question catalane. Alors, ils étaient ultra-minoritaires et ils se trouvent aujourd'hui en position très forte. Ce qui est absolument décisif et qu'on va avoir dans quelques heures, le suspense va bientôt arriver à son terme, c'est de savoir quels sont les équilibres à droite. Si le Parti Populaire est largement en tête à droite, je dirais, il aura à ce moment-là réussi à freiner un petit peu cette fuite que représente l'électorat de Vox. Et s'il y a à ce moment-là une majorité parlementaire à droite, il pourra prétendre à la direction du gouvernement. Mais imaginons un autre scénario où le Parti Populaire est très affaibli, même s'il est en tête, et où Vox, un groupe parlementaire décisif de 40 à 50 élus, on peut imaginer que la formation d'un gouvernement de droite devienne extrêmement difficile parce que le résultat de Vox déséquilibre la droite espagnole dans son ensemble. Donc la droite peut très bien, c'est pas ce que disent les sondages, mais c'est une surprise à laquelle on peut s'attendre raisonnablement. La droite peut très bien être en mesure arithmétiquement de former le gouvernement et politiquement de ne pas l'être.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. Et on va revenir sur ces élections espagnoles dont on aura le résultat dans moins d'une heure maintenant. Et on va évidemment reparler de Vox, ce parti d'extrême droite qui a fait éruption et qui perturbe considérablement le jeu politique espagnol. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiejąc tę Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. En Espagne, de Madrid à Barcelone, les bureaux de vote vont fermer dans moins d'une demi-heure maintenant. Les Espagnols élisent en effet leurs 350 députés dans le cadre d'une élection anticipée. Depuis 1975 et la mort du dictateur Franco, la droite et la gauche ont alterné sans problème à la tête du pays, mais depuis quelques années, avec la crise économique de 2008 et le chômage de masse, avec l'afflux de migrants et surtout les velléités indépendantistes catalanes, le paysage politique s'est fracturé en Espagne. Au traditionnel PP, le Parti Populaire de droite, et le PSE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, s'est greffé au fil des années. Podemos, un parti de gauche radical, Ciudadanos, historiquement de centre-droit, mais surtout le petit dernier Vox, ouvertement d'une extrême droite nostalgique de Franco. C'est ce petit parti qui perturbe aujourd'hui le jeu politique en Espagne. Certes, Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste sortant, caracole en tête dans les sondages, mais il n'est pas sûr, on vient déjà de le comprendre, de pouvoir former un gouvernement au lendemain de ces élections. Et l'Espagne risque d'entrer dans une zone de turbulence. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Silva Ayuso est correspondante à Paris du quotidien El País. Rosto Zambrana est directeur du Collège d'Espagne à Paris. Et Benoît Pellistrandi, professeur d'histoire, vient de publier Le labyrinthe catalan chez Des Clés de Brouwer. Il est en ligne de Madrid. Alors, Benoît Pellistrandi, on avait commencé à expliquer un petit peu l'émergence de Vox. L'idéologie de Vox, son programme, c'est un parti ouvert nostalgique de Franco, ce qui est quand même une nouveauté importante en Espagne, on peut dire ça ?
Ah oui, c'est une nouveauté importante, et je dirais c'est la conséquence de ce séisme catalan qui a fait que géologiquement la culture politique espagnole a été recomposée et que vous voyez réaffleurer des choses que l'on pensait être entrées dans le sous-sol de l'histoire politique espagnole. Il y a un phénomène de nostalgie, non pas effectivement pour ressusciter Franco, mais d'une certaine façon pour dire laissez-nous tranquilles avec le franquisme, de toute façon. C'était pas si négatif que cela. L'Espagne était unie, elle était grande, elle était libre, le slogan du franquisme. Et par ailleurs aussi, nous sommes fiers d'être espagnols, nous avons des traditions qui sont parfaitement respectables, et vous avez du coup, j'allais dire, tout le folklore nationaliste qui est convoqué, les taureaux, la corrida, le flamenco, enfin, c'est presque une caricature du nationalisme espagnol, et qui est effectivement cette réaction contre le discours catalan qui est très méprisant à l'égard de l'Espagne. C'est là où, comme l'ont dit Silvia Ayuso et Rosso Zambrana, c'est un phénomène de réaction. Vous avez eu pendant 2-3 ans, dans les journaux, à la télévision, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux, des leaders catalans qui ont passé leur temps à dire que l'Espagne c'était moche, que l'Espagne était une démocratie inachevée, que l'Espagne c'était Franco, etc. Et vous avez un réveil. Et des gens qui disent, non, l'Espagne, nous sommes fiers d'être espagnols, et puis voilà. Le vote de Vox, il est très émotionnel. Ce sont des gens qui votent avec leurs tripes. Et ce qui effectivement a été très frappant pendant la campagne électorale, c'est que ce sont les meetings où il y a eu le plus de monde. Mercredi soir, il y a eu 4500 personnes au meeting de Vox à Séville, bastion socialiste, mais dans une petite ville aussi tranquille que Logroño dans la Rioja, où il ne se passe en général rien, vous avez 1200 personnes au meeting de Vox. Et c'est cet indicateur qui fait que les sondeurs se disent qu'il y a peut-être une surprise Vox dans les urnes.
Alors pour l'instant, les sondages accordent entre 10 et 12% à Vox, mais ça pourrait être plus important, comme vous l'expliquez, Benoît Pellistrandi. Cédric Ayuso, vous vouliez réagir?
Je voulais seulement ajouter, parce que bien sûr que c'était une réaction, bien sûr, au discours indépendantiste. Mais il faut dire, c'est pas seulement la faute des indépendantistes. Là, on a joué à deux. Il y a eu aussi une partie de politique, surtout à droite, qui avait l'intérêt de provoquer pour faire ressurgir un esprit de droite dans le reste de l'Espagne. Un esprit un peu plus de patriotisme, que c'était des mots, j'insiste, c'était des mots patriotisme. La fierté de la nation, c'était des choses qu'on parlait pas si avant. En Espagne, on assumait, mais on ne jouait pas avec certains mots, que c'était un peu encore tabou. Et il a eu un intérêt de jouer, de promouvoir pour gagner des votes un peu hors de Catalogne pour la, éventuellement pour la droite, à cause des Catalans. C'est pas seulement le, je veux dire, c'était un jeu à deux dangereux, et maintenant on a les petites monstres, si je me permets de dire, que c'est les ultra-droites Vox qui n'existaient pas avant en Espagne.
Au ce moment-là, Vox a fait irruption en décembre 2018, c'est vraiment très très récent, en ayant un vote important dans les élections régionales d'Andalousie. Benoît Vermitsani l'a expliqué. Mais ce qui est important, c'est que les deux partis de droite, le Parti Populaire de Mariano Rajoy, le Ciudadanos, qui est un parti de centre-droit, n'ont pas hésité à faire alliance avec Vox, ce qui fait qu'on a une alliance entre l'extrême droite et la droite en Espagne, alors que il y a quelques mois encore, ce parti n'existait pas. Il n'y a pas eu de rempart, de barrière, comme on dit de temps en temps dans d'autres pays.
D'abord, Borges et Sebré, on les voit dans notre dialogue, à la différence d'autres extrêmes droites européennes, est né surtout par la Catalogne et non pas par l'émigration. Le phénomène migratoire en Espagne, il y a quand même 10% de la population qui vient du dehors, c'est pas un problème en termes sociaux de la même manière. Il y a une colonie assez nombreuse de Marocains, une autre de Roumains, mais il y a beaucoup de latino-américains qui ont la même religion, la même langue et qui s'intègrent très facilement. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'Européens qui sont sur les côtes et qui habitent aussi l'Espagne. Donc, le phénomène migratoire, malgré que suppose quand même près de 5 millions, c'est pas la même texture qu'il y a en France ou dans d'autres pays. Alors, c'est le problème catalan. Et en Espagne, les 5 dernières années, il y a 3 nouveaux partis. Il y a un parti à gauche qui est sorti des classes moyennes. Ce sont les fils des classes moyennes espagnoles qui n'avaient pas l'avenir de pouvoir travailler et de pouvoir se développer. Des gens qui normalement avaient des études, etc. Du monde digital déjà, c'est Podemos. Il est né et il est monté dans les enquêtes et puis il est tombé. Et les difficultés ont commencé. Ensuite, il y a Ciudadanos. Ciudadanos est né en Catalogne, à l'origine, c'est déjà provoqué, mais c'était provoqué par le problème catalan ou la question catalane. Et là, c'était une réaction avec beaucoup de gens qui venaient aussi du centre-gauche. C'était la réaction, disons, républicaine, en termes français. C'était des gens avec une mentalité démocratique, républicaine. Lui, il a pris la place d'un autre parti qui était né avant et qui l'aiderait, un ancien leader socialiste qui était Rosa Díez, qui s'appelait UPyD, Union pour la démocratie, mais il n'y a que 2 ou 3 députés. Tandis que Ciudadanos, et lui, Ciudadanos aussi a monté beaucoup dans les enquêtes et c'est à cause peut-être de cela qu'à un moment donné, son leader Rivera a songé de rentrer dans la droite et rester à la place du Parti Populaire. C'est un des problèmes de ces élections. Ils ont des discussions très très fortes, rien qu'il y a quelques jours, les leaders à Madrid, les présidents de la communauté autonome de Madrid, viennent de quitter le Parti Populaire et passer à Ciudadanos. Ça fait des blessures. Et ensuite, il y a Vox. Vox, en ce moment, je partage tout ce qu'on vient de dire. Et Vox, le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'opportunité encore. Et il y a les élections qui tombent déjà au moment où Vox monte. Et sans doute, les contradictions commenceraient du moment qu'on commence à demander à Vox d'aller un peu plus loin des gestes. On ne connaît pas la politique économique.
On ne connaît pas le programme de Vox.
Voilà, il n'y a pas de programme. Ils n'ont pas eu le temps. Mais évidemment, c'est provoqué, c'est un problème identitaire. Les problèmes d'identité sont un peu partout dans le monde. C'est un problème d'identité qui a fait que Vox soit là.
On va poursuivre notre débat, mais avant, nous allons faire un tour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
Avec les indignés qui ont donné naissance à Podemos, avec les indépendantistes catalans, ou plus récemment avec l'irruption du parti d'extrême droite Vox, dont on parle beaucoup dans cette émission, les Espagnols ont l'habitude de faire parler d'eux. Mais il y a des Espagnols dont on ne parle jamais, ils sont pourtant les plus nombreux, ce sont les Espagnols moyens, je mets ça entre guillemets évidemment, ceux qui ne sont ni indignés, ni indépendantistes et pas forcément extrémistes. Ils sont assez méconnus et le quotidien El Mundo leur a consacré Un long article.
Absolument. À quelques jours des élections, El Mundo dressait le portrait robot d'un électeur bien particulier, celui dont dépend l'avenir du pays. Rien que ça. Celui aussi à qui l'Espagne doit un grand nombre des changements politiques et sociaux de l'histoire récente. Un millénial? Non. Un membre de la génération X? Non plus. Pas un riche, pas un pauvre. En fait, le journal madrilène Autopsie, et c'est ce que vous disiez Daniel, l'espagnol moyen. Il vit dans une ville qui n'est pas grande, enfin pas comme Madrid ou Barcelone, mais pas petite non plus. Il a un niveau d'éducation entre faible et moyen, ne lit pas la presse, utilise à peine Internet, mais regarde le journal télévisé tous les soirs. Sa profession le range dans la catégorie des travailleurs qualifiés et niveau argent, il arrive tout juste à joindre les deux bouts. En somme, il ne demande rien à personne. Il veut juste vivre sa vie, note El Mundo. Mais problème, cet électeur est constamment boudé par les partis dominants et notamment à gauche. Mais pourquoi est-ce qu'il est si déterminant, ce citoyen? Eh bien, pour une raison simple, en fait, c'est la majorité des électeurs, répond Ignacio Urquizu, député socialiste sortant et auteur d'un livre sur le sujet. Ce sont les gens ordinaires qui orientent la société dans une direction ou une autre. Par cet ouvrage qui s'intitule « Comment sommes-nous ?», il explique vouloir mettre en lumière les gens dont on ne parle jamais, ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, ouvrir leur petite boutique ou passer la journée à l'usine.
Alors Sacha, existe-t-il en Espagne l'équivalent des fameux gilets jaunes français?
Eh bien pas vraiment, selon Ignacio Urquizu, qui place l'espagnol moyen au centre de l'échiquier politique et qui penche légèrement à gauche. Aujourd'hui, cet espagnol voterait pour le PSOE, le parti socialiste. Du moins, c'est ce qu'il compte faire pour le moment, car selon les derniers sondages, 40% des électeurs seraient encore indécis. Ce qui est curieux, c'est qu'ailleurs, les travailleurs qualifiés sont à l'origine de la montée des mouvements populistes ou d'extrême droite, ajoute Urquizu, qui est également sociologue. Lorsqu'un mouvement politique passe du statut de minorité à celui de menace réelle, c'est parce que les gens ordinaires ont commencé à voter pour lui pendant que nous étions tous en train de parler des riches, des femmes et des millennials. En résumé, pour le moment, l'électeur moyen continue de servir de rempart face à la nouvelle vague populiste, mais Ignacio Urquizu lance néanmoins une mise en garde. Le risque est que, dans cette société si fragmentée, ces citoyens moyens aient de moins en moins de poids, perdent leurs illusions et finissent par se tourner vers des voies populistes. Si nous ne leur prêtons pas attention, conclut-il dans les colonnes d'El Mundo, ils pourraient en venir à soutenir des options qui s'avéreront un vrai désastre.
Merci Charles Michel, Courrier International qui consacre un dossier à l'Espagne et à ses élections dans le numéro actuellement en vente dans les kiosques.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Sylvia Ayuso, correspondante à Paris du quotidien El País, avec Rusto Zambrana, directeur du Collège d'Espagne à Paris, avec Benoît Pellistrandi, professeur d'histoire. Il vient de publier Le labyrinthe catalan chez Des Clés de Bouvoir. Benoît Pellistrandi, beaucoup de choses dans cet article d'El Mundo, et notamment l'idée qu'il y a de plus en plus deux Espagnes, comme il y a deux Pologne, deux Royaume-Uni et deux France. Il y a une certaine normalisation de l'Espagne après cette période de transition qui a commencé après la mort de Franco en 1975.
Oui, sans aucun doute, il y a aussi un effet générationnel. Il est vrai que les Espagnols avaient placé leur centre de gravité politique au centre. Ça a été longtemps l'hégémonie du Parti Socialiste de Felipe González, c'était un centre-gauche. Ça a été ensuite l'intelligence d'Aznar de rassembler l'ensemble des droites et de dire que le Parti Populaire, c'était le centre-droit. Donc il y avait une bataille pour le centre. Or aujourd'hui, on est au contraire dans une polarisation extrêmement forte, une radicalisation, et ça tient sans doute aussi au fait que les grands leaders de la transition démocratique, eh bien, sont des retraités en termes de vie politique. Tout d'ailleurs, les candidats à la présidence du gouvernement espagnol sont des enfants de la démocratie. Pedro Sánchez a 46 ans, il est né en 72, 3 ans avant la mort de Franco, mais donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait de la politique sous régime démocratique. Albert Rivera a moins de 40 ans, Pablo Casado, le leader du Parti Populaire, a 37 ans, Pablo Iglesias a 40 ans, donc on a des gens très jeunes et qui s'adressent à un électorat aussi qui est très jeune et qui, comme le souligne avec beaucoup de justesse l'article d'El Mundo, ne lisent pas la presse, sont en revanche sur les réseaux sociaux, donc il y a aussi un vrai problème de culture politique. Et je dirais que ce que nous avons vu dans d'autres pays aux États-Unis avec la vague Trump, en Grande-Bretagne avec le Brexit, en Italie avec la désagrégation du système politique et puis l'apparition du mouvement 5 étoiles, eh bien, affecte aujourd'hui l'Espagne. Alors, il y a des raisons proprement espagnoles, mais il y a aussi, je dirais, des raisons qui sont structurelles et liées à l'évolution de nos démocraties, pas simplement à cause des nouvelles technologies, mais aussi sur les effets sociaux de cette mondialisation qui a eu pour effet de prolétariser la classe moyenne et donc de provoquer une inquiétude à l'intérieur de cette classe moyenne qui était normalement le pôle de stabilité de nos démocraties libérales représentatives.
C'est bien, Louis, ce que vient de dire Bruno Penestroni, c'est aussi le rappel que l'Espagne a connu une crise phénoménale en 2008 avec un chômage astronomique, hein, 30% de la population. L'Espagne va, et notamment chez les jeunes, l'Espagne va un peu mieux aujourd'hui, l'économie a redémarré, le tourisme aussi, enfin l'Espagne va mieux, mais tous les Espagnols pour autant ne vont pas mieux pour autant.
Oui, c'est ça, c'est un peu, moi que je couvre aussi les élections aux États-Unis, en termes général, on voit les chiffres globales et ça marche mieux. Mais il reste cette sensation dans les classes moyennes qui finalement sont la structure, la base de la des démocraties, qu'on est moins bien qu'avant, qu'il y a un avant et un après de la crise. Et aujourd'hui, en Espagne, oui, il y a les derniers chiffres, c'est 14,7% de chômage, que c'est beaucoup plus qu'en Europe, mais beaucoup moins que plus de 26% qu'il a eu pendant le pire de la crise. Mais les problèmes, surtout, ce sont les jeunes. Les jeunes qui sont autour de 35% de chômage entre la jeunesse, c'est le deuxième pire chiffre d'Europe après la Grèce. La moyenne en Europe, c'est 16%. Alors, on double plus, c'est plus le double jeunesse. Une jeunesse qui est préparée, qui a fait des études, qui a fait des carrières, qui c'est la jeunesse plus prête à travailler, mais qui trouve pas de travail. Quand il trouve du travail, il trouve du travail temporaire. Il a une précarisation de travail qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, les Espagnols ont été toujours un peu lents pour sortir de chez ses parents, mais maintenant, il a beaucoup de gens qui, après les 30 ans, il continue à vivre avec ses parents. Et ça gère toute une situation, toute une société qui peut pas bouger, qui n'ose pas, qui ne peut pas payer peut pas acheter un appartement, mais peut pas non plus payer les loyers. Et ça gère une frustration qui s'est transcrite aussi parfois de sorties politiques éventuellement un peu extrêmes, de dire, bon, tout ce qu'on connaît, ça gère un marché, ils font rien, on va essayer quelque chose de nouveau. Qui sait que c'est passé aussi avec Trump, ou même au Brésil avec Bolsonaro. Ce sont pas des exemples extérieurs de l'Europe. C'est pas une réaction seulement ni d'Europe ni d'Espagne.
C'est vrai que la transition espagnole a été vraiment montrée en exemple. On venait du monde entier pour voir comment l'Espagne était sortie d'une dictature et entrée dans la démocratie par la très grande porte. Là, on est à la fin de cette transition et les problèmes de l'Espagne sont à peu près les problèmes du reste de l'Europe, mais aussi des États-Unis et du Brésil. Osso-Zomanda, vous voulez réagir?
Oui, je suis absolument d'accord. Si, enfin, pour comprendre la situation en Espagne, chaque pays européen a sa crise. En France, les gilets jaunes, on a vu ce qui se passe en Italie, la montée de l'extrême droite en Allemagne. Si on lit les libéraux américains, Monsieur Punk, il dit « tout va bien dans le monde, c'est vrai ». Tout va beaucoup mieux. Il y a des centaines de millions de Chinois, des Indiens qui sont sortis de la pauvreté. Mais il y a les grands perdants. Ce sont les classes moyennes et pauvres des pays riches. Et alors là, l'Espagne, c'est comme la France, chacun a son problème. Et en Espagne, la crise économique a été beaucoup plus dure que dans d'autres pays européens parce que l'intégration économique qu'on a fait en Europe a été beaucoup plus dure. L'Espagne s'était endettée, non la dette publique. La dette en Espagne en 2008 était la dette publique 36%. Et les dépenses publiques, 36% du produit intérieur brut. Et les dépenses publiques, c'était 39, même pas 40. En proportion, regardez avec la France, avec l'Allemagne, avec n'importe qui. Donc, que l'État était très mesuré. C'était la dette privée parce que, avec l'euro, les capitaux arrivaient en Espagne parce qu'il y avait d'autres pays européens qui avaient trop d'argent à placer. Et alors là, ça fait une boule énorme et ça a donné une situation économique très grave, dont la chute a été terrible, Et en France, on n'a pas vécu comme ça, mais les salaires, même les salaires des fonctionnaires, le président Zapatero est sorti à la télévision en 2010 pour dire qu'il diminuait de 5% les salaires des fonctionnaires. Pensez-vous, c'est ce qui se serait passé dans d'autres pays d'Europe.
Et par exemple en France.
Par exemple en France. C'est la situation. Les salaires en Espagne ont tombé dans les privés beaucoup plus que dans les publics, évidemment. Si bien, en ce moment...
Il y a de nombreux travailleurs pauvres en Espagne.
Voilà.
Sylvia Ayuso, d'un mot.
Un petit détail qui peut paraître pas important, mais aussi je suis de la même génération, de la transition, je suis la fille de la transition. Il y a un petit problème historique, et la mémoire historique est très courte, et l'histoire est très importante, c'est que notre génération déjà, on n'arrivait jamais à étudier le 20e siècle presque espagnol. Il avait une espèce de pacte de silence, de pas étudier pour pas gérer des problèmes, de pas étudier la dictature. Il a plusieurs générations de jeunes qui connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'était la dictature, qui Franco c'est une figure, un vieux homme, nanana, mais qui sont prêts à croire que les choses allaient pas si mal ou que c'était pas si mal parce qu'on n'a pas bien étudié, on n'a pas fait les devoirs historiques, on n'a pas étudié plusieurs des générations, trois peut-être, qui votent aujourd'hui et qui ont aucune connaissance de l'histoire contemporaine espagnole. Et ça, c'est pour moi un problème que j'ai vécu moi-même à l'école, hein.
Vous êtes évidemment d'accord avec ce que vient de dire Sylvia Ayuso, j'imagine, Bruna Prinstroni.
Oui, c'est un vrai problème parce que, là aussi, à titre anecdotique, mon épouse qui est enseignante d'espagnol faisait un échange avec un lycée de Teruel et il se trouve que donc les élèves du lycée de Teruel étaient en cours à Paris et elle faisait cours sur Juan Carlos et la transition démocratique. Et à l'issue de cette heure de cours, les élèves espagnols sont allés vers leur prof d'histoire qui les accompagnait, puis avec cette spontanéité qui les caractérise, comme on tutoie là-bas, ils ont dit, dis donc, tu sais qu'on vient d'apprendre en une heure ce qu'on n'a jamais appris avec toi, et on vient de comprendre des tas de choses. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour de cette mémoire historique qui aujourd'hui est instrumentalisée à des fins politiques. Beaucoup de jeunes, notamment en Catalogne, ont dénoncé le franquisme, mais seraient incapables de situer chronologiquement Franco. Bon, donc on a créé des espèces de mythes, et l'histoire est absente. C'est un vrai problème, parce que je crois du coup qu'il y a aussi un complexe proprement espagnol, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce capital politique qu'ils ont eu. Et la vision que les Espagnols ont de la politique aujourd'hui est extraordinairement négative, alors même que les Espagnols ont montré que la politique était la seule solution pour éviter la violence et pour construire ensemble une société démocratique.
D'un mot, Benoît Vestrandi, au lendemain du franquisme, par réaction à un État qui était très centralisé, beaucoup de pouvoirs ont été donnés aux régions. On en voit peut-être un peu les limites aujourd'hui. Pour mémoire, il y a eu quand même de nombreux scandales autour de projets parfois pharaoniques. J'ai en mémoire les aéroports, tous les 200 kilomètres, qui n'ont jamais vu un avion décoller ni atterrir d'ailleurs.
Oui, alors ça c'est le problème général de la décentralisation, puisque vous multipliez les centres de décision et que vous multipliez les budgets, vous multipliez, je dirais, les points de fuite. On le voit, il y a un film espagnol qui est actuellement diffusé en France qui s'appelle El Reino, qui raconte une histoire emblématique de corruption. C'est en fait un collage de plusieurs situations réelles. Et il est vrai que cette corruption a gangréné l'ensemble des partis politiques, le Parti Populaire et le Parti Socialiste souffrent énormément de ces cas qui les ont fragilisés. Mais je dirais que le problème n'est pas spécifiquement espagnol, parce qu'on a vu en France que les scandales de financement de la vie politique étaient liés à des municipalités, on se souvient quand même du système RPR, pouvaient être liés à des régions, et je me souviens que le grand historien Fernand Braudel regrettait la décentralisation parce qu'il y voyait effectivement un affaiblissement de la vie politique par le phénomène de corruption. Alors, après, il se trouve aussi qu'on a créé, avec ces 17 communautés autonomes, 17 clientèles politiques. Vous avez 17 parlements, 17 gouvernements, et qu'il faudrait sans doute aujourd'hui corriger cette carte politique, et que c'est peut-être une voie pour sortir de la crise catalane, parce que les Catalans ont l'impression d'être finalement traités comme tout le monde, alors qu'ils revendiquent un fait différentiel, et qu'il faut être attentif à ce fait différentiel. Mais la difficulté, c'est comment vous déconstruisez un système où il y a 17 clientèles profondément enracinées dans le fonctionnement du pays. Mais Cette vision qui est négative ne doit pas masquer le fait que la décentralisation a eu des effets extraordinairement positifs pour l'Espagne. D'abord parce que ça faisait partie du pacte démocratique, et ça ne l'oublions jamais. Et que par ailleurs, ça a été montré par les différentes études de politologues ou de gens qui étudient la politique d'administration, les politiques publiques en Espagne sont très efficaces et très proches du citoyen. Donc faisons attention à ne pas charger le tableau et à ne le peindre que de façon négative. Il y a une qualité de vie, une qualité de service public en Espagne qui a été rendue possible par cette proximité des centres de décision.
Alors, dans tous les cas, ce soir, ou plus exactement demain matin, une page de la transition sera définitivement tournée. Quel sera le prochain défi pour les plus grands défis pour ce prochain gouvernement, quel qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, la Catalogne, l'économie, les travailleurs pauvres, peut-être donner confiance à la jeunesse qui a payé donc un lourd tribut après la crise de 2008, Benoît Valtistrani, d'un mot.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, ce sont ces thèmes-là, et d'une certaine façon, je dirais, le plus grand défi sera dans un paysage qui aura été quand même dévasté par la campagne électorale, et je pense que les résultats vont montrer l'état de fracturation politique du pays, ce sera de reconstruire une civilité politique, de reconstruire le lieu du dialogue politique pour que les Espagnols se rendent compte que la politique, ça sert à quelque chose et que ce ne sont pas simplement des corrompus ou des opportunistes qui se lancent à la chasse aux bénéfices.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Benoît Pellistrandi, je rappelle le titre de votre livre publié chez Desclée de Brouwer, Le labyrinthe catalan, et on a compris que la Catalogne allait être au centre de la politique espagnole dans les mois et les années à venir. Sur la page de l'émission, vous trouverez bien sûr, comme d'habitude, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalou, que vous soyez à Madrid, Barcelone, Paris, ailleurs en Europe, ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.